Jour après jour dans nos vies, c'est comme ça que le dimanche, en fait, on est dans le saint lieu, quand c'est la continuité de la semaine et on vient pour se retrouver devant le Seigneur, entendre sa parole. Alors j'aimerais prendre plusieurs passages ce matin, et le premier passage se trouve dans Genèse 21. Genèse 21, on lira plusieurs passages, et le point commun de ces passages, c'est que ça concerne un puits. Un puits où on allait chercher l'eau de manière naturelle, donc un événement quotidien, un événement traditionnel qui parlait au cœur de tout le monde parce que c'était facile à comprendre ce que ça représentait. Et dans le chapitre 21, ce n'est pas la première fois qu'il est question d'un puits, puisque dans le chapitre 16, déjà il est question de Hagar qui se trouve près d'une source d'eau, près d'un puits. Mais dans le chapitre 21, il est question encore de Hagar qui se trouve perdue dans le désert avec un adolescent. Et je pense que c'est important de voir cet aspect-là. Tout d'abord, c'est que son fils était adolescent. C'est un garçon qui a souffert d'une certaine façon parce qu'il venait d'être renvoyé de chez son père et il se trouvait avec sa mère dans le désert. Et je me dis, ça me parle beaucoup pour les adolescents, parce que l'attitude de la mère était exemplaire à l'égard de son fils. Elle savait qu'il était en train de mourir. Elle savait que dans ce désert, il n'y avait aucune espérance de vie. Il n'y avait aucune espérance de survivre. Mais elle a crié à l'Éternel, n'est-ce pas ? Elle a élevé la voix vers l'Éternel en disant, que je ne vois pas mon enfant mourir, je le mets plus loin, parce que je ne veux pas le voir mourir. Et le Seigneur lui a répondu, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et il a ouvert les yeux de la maman et elle a vu un puits d'eau. Et ce que j'aimerais dire aux parents ici qui ont des adolescents, c'est que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un désert. C'est un désert où la seule issue, le seul avenir, c'est la mort. Ne pensez pas que dans cette société, dans ce monde, il y a de l'espérance pour les enfants, pour les adolescents. Il n'y en a pas du tout. Et la seule espérance que vous pouvez avoir, c'est de crier à Dieu et de faire appel au Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous montre la source, afin que notre enfant, nos enfants soient sauvés. On est dans le chapitre 4 de Galates, l'apôtre Paul décrit Hagar comme étant la représentation de la loi. Et ce qui est très frappant, c'est que Dieu, bien sûr, a instauré la loi dans l'Ancienne Alliance. Il a instauré la grâce dans la Nouvelle Alliance, qui est bien plus merveilleuse. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et Dieu, bien sûr, a honoré la loi et respecté la loi. Parce que ça venait de lui. On ne peut pas envoyer, balader la loi, on ne peut pas mépriser la loi. Mais voyez combien la loi était présente près de cet adolescent dans le désert. Sa mère, Hagar, qui représentait la loi, était présente dans le désert à ses côtés. Et c'est elle qui a intercédé. Et nous sommes dans une société où on essaye d'enlever la loi. N'est-ce pas ? On a dit, voilà, il faut, tout ça c'est ringard, il faut changer tout ça. Mais on doit donner à nos enfants la loi avant qu'ils connaissent la grâce. Parce que c'est la loi qui peut intercéder pour eux, qui peut leur rappeler le droit chemin plus tard. Et c'est un devoir, nous, en tant que parents, de devoir leur donner la loi en espérant qu'un jour, ils rencontrent la grâce. Voilà, donc priez pour les adolescents, priez pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'avenir dans ce monde. Si anti-Dieu, n'est-ce pas ? Mais plus réjouissant que cela, j'aimerais parler de la grâce. Et la grâce est mentionnée dans quelques chapitres plus tard. La promesse, l'enfant de la promesse, Isaac, qui est d'ailleurs à l'origine du renvoi de Hagar et de son fils, parce que les deux ne pouvaient pas cohabiter dans la même maison de manière spirituelle, parce qu'ils avaient représenté spirituellement la loi et la grâce, Et les deux ne peuvent pas cohabiter, n'est-ce pas, dans les vies. Et là aussi, au chapitre 24, il est question d'un puits. Et je trouve ce chapitre extraordinaire. Bien sûr, vous avez entendu des prédications, notamment Dave Vine, il y a quelque temps, qui avait prêché là-dessus. Remarquable prédication. Et c'était, vous l'avez certainement entendu, mais j'aimerais qu'on le revive ce matin, qu'on revive des choses de ce chapitre. Et dans le chapitre 24, il est question de ce serviteur qui est envoyé pour chercher une épouse pour Isaac. Et Isaac, selon Galates chapitre 4, représente la promesse de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la grâce de Dieu, le salut par la grâce et pas par la loi et par les œuvres. Et dans ce chapitre 24, il y a d'abord la personne du serviteur. Abraham appelle son plus ancien, son plus fidèle serviteur. Et vous savez que cet homme, il est remarquable parce que c'est lui qui aurait dû hériter. C'est lui, pardon, qui aurait hérité si Abraham n'avait pas d'enfant, n'avait pas eu d'enfant. C'est vraisemblablement le même qui aurait été l'héritier. Et c'était l'héritage de richesse énorme. Donc il serait passé de statut de serviteur à maître. Mais cet homme était fidèle à son maître, Abraham. Et il n'a pas considéré que ce qu'il aurait pu avoir et qu'il a raté à cause de la naissance, surtout d'Isaac, eh bien, que cela, c'était quelque chose de plus important que de servir son maître. Et il a obéi, il a été fidèle, même quand il fallait chercher une épouse pour le fils. Et vous savez que, bien sûr, ce chapitre est souvent utilisé pour symboliser Dieu qui envoie ses serviteurs, qui envoie le Saint-Esprit aussi pour pouvoir constituer une épouse, pour pouvoir trouver une épouse qui est l'Église pour son fils Jésus. Alors si c'est le cas, ça veut dire qu'on doit se retrouver dedans. On doit chercher à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce chapitre? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te plaire, pour être vraiment uni à toi d'une manière particulière? Et on voit plusieurs caractéristiques, déjà du serviteur, mais aussi de celle qui s'appelle Rebecca et qui a été choisie par le Seigneur. Premièrement, le serviteur, il fait un long voyage pour aller chercher. Il cherche vraiment, il fait quelque chose. Parce que quand vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, sauf demander à la femme, « Donne-moi à boire. » Et puis, c'est elle qui puise de l'eau, c'est elle qui donne assez pour tous les chameaux, et les chameaux, un chameau, ça boit beaucoup. Et lui, il regarde. Il ne fait rien. Mais il a fait beaucoup. Parce qu'il a obéi à son père, il a obéi à son maître. Et il a fait ce long trajet pour arriver à l'endroit qu'avait indiqué son maître. Et c'est ça la part que son maître lui demandait. Mais ce que j'aime, c'est ce fait qu'il n'était pas agité là, près du puits. Il a juste fait cette prière. Seigneur, je te demande, je vais paraphraser, je vais le mettre en français courant. Seigneur, je te demande d'intervenir maintenant et de montrer quelle est ta volonté. La femme à qui je demande à boire et qui me donnera non pas seulement à moi, mais aussi au chameau, eh bien, ce sera celle que tu as choisie. Et il n'a pas essayé de manipuler quoi que ce soit. Ça, c'est merveilleux. Combien on a besoin de connaître cette foi qu'avait ce serviteur, non pas de créer la situation, mais juste de prier, de demander à Dieu d'agir dans les situations et de le laisser faire de A à Z, de ne pas intervenir, de ne pas essayer de contrôler. Quelques chapitres plus loin, vous avez Jacob, certes béni de Dieu, certes choisi par Dieu, représente, il incarne le peuple de Dieu, mais il l'incarne un peu trop bien, parce que le peuple de Dieu est souvent agité, n'est-ce pas? Et là, lui, Jacob, il va au puits, Et puis, il y a les bergers. Alors, ce n'est pas chez lui, hein, attention. Il est étranger, là. Et il y avait des bergers qui étaient rassemblés. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et les bergers disent, ben, la tradition ici, c'est qu'on attend tous les bergers. Une fois que tout le monde est rassemblé, eh bien, on va rouler la pierre au-dessus du puits et on va puiser de l'eau pour là. Jacob dit, non, ça ne va pas, ça. Enfin, je paraphrase aussi. Non, on va changer les choses. Alors, bien sûr, c'est parce qu'il voulait se trouver seul avec Rachel, qu'il voyait venir. Et donc, il a commencé à arranger la situation lui-même. Il a commencé à créer la situation par lui-même pour rencontrer Rachel. Et c'est lui qui a puisé de l'eau pour Rachel, c'est lui qui lui a donné à boire, etc., à ce troupeau, etc. Mais il a arrangé la situation. Il a changé les coutumes locales. Il a dit au berger, allez-y, servez-vous et puis allez-vous-en. Comme ça, je serai seul, ça voulait dire, avec Rachel. Et on ne doit pas faire ça. Et je pense que le peuple de Dieu est souvent tout à fait agité. N'est-ce pas? Il est en train d'essayer de faire des efforts, faire des œuvres pour que Dieu agisse. Mais l'attitude du serviteur qui représente au fond le Saint-Esprit, qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, nous dit Romains 8. Eh bien, le serviteur priait simplement, Seigneur, agis. Seigneur, fais l'œuvre. La question qui se pose, c'est est-ce que nous avons la foi en un Dieu tout-puissant qui agit, en un Dieu qui transforme, en un Dieu qui arrange les situations pour que les choses, les portes s'ouvrent, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre aussi dans les vies des hommes et des femmes. Quelquefois, on pense qu'il faut évangéliser par-ci, par-là. C'est vrai, si le Seigneur nous appelle à évangéliser, il faut le faire, il faut obéir. Mais quelquefois, on va utiliser des techniques, on va réfléchir sur la procédure. On va mettre en place des stratagèmes, des procédures, des plans d'attaque. On va inviter des gens pour quelque chose qui est assez plaisant. Et quand ils viennent, on va essayer de leur parler de l'Évangile. Mais la puissance de Dieu se manifeste sans l'intervention de l'homme. Il n'y a pas besoin de faire ces stratagèmes, d'utiliser ces stratagèmes. Qu'on laisse la puissance de Dieu agir et on verra ce que ce serviteur a vu. Il avait à peine fini de prier. Quelquefois on pense, le Seigneur, il faut prier beaucoup. Hein. Le Seigneur, il va intervenir, mais il va falloir attendre encore quelques années. C'est possible, si vous avez la foi, qu'il faut attendre des années, eh bien il vous sera fait selon votre foi. Vous devrez attendre des années peut-être. Mais ce serviteur savait qu'il était pressé. Il était pressé parce qu'il voulait rentrer vers Abraham et lui dire, voilà, j'ai accompli ma mission. J'ai fait ce que tu m'as demandé à faire. Et le Saint-Esprit agit comme il veut, mais il n'y a pas besoin nécessairement de temps. Le Saint-Esprit peut agir aujourd'hui. Et si vous êtes dans une situation difficile, si vous êtes dans une situation vous avez besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Vous avez besoin qu'un miracle se passe devant cette montagne qui est devant vous, devant cette porte fermée complètement. Eh bien, attendez-vous à ce que le Seigneur agisse, mais faites cette prière simple qu'il a pu faire. Seigneur, fais réussir mon voyage. Fais réussir ce que tu as décidé toi-même. Accomplis-le. Et le Seigneur va agir. Pas besoin de s'agiter. Il vous dira ce qu'il faudra faire, mais il agira. C'est le Dieu que nous prêchons. C'est un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu qui fait seulement des choses possibles. Guérir un rhume en 8 jours. N'est-ce pas? Les gens disent, ah voilà, le Seigneur m'a répondu, etc. Ou bien j'ai failli avoir un accident, le Seigneur est intervenu. C'est vrai que le Seigneur est intervenu, il vous a protégé d'avoir un accident. Mais ça, il y a des non-chrétiens qui ont failli avoir des accidents et qui n'ont pas eu d'accident. Si c'est le seul témoignage qu'on peut donner, eh bien, c'est dommage. Est-ce qu'on peut donner un témoignage de la puissance de Dieu? Et le premier témoignage, c'est la transformation de la vie, radicalement. Il y a des choses que l'on voudrait arranger dans nos vies. Il y a des problèmes desquels on voudrait se débarrasser. Mais on a besoin que l'Esprit de Dieu agisse, que la puissance de Dieu agisse et débarrasse de nos vies ces choses. La première chose à dire, c'est « je suis coupable, je suis le seul responsable et je demande l'Esprit de Dieu d'agir. Je ne vais pas essayer de me délivrer de ce problème. Je ne vais pas essayer d'arrêter en faisant toute une proclamation « Seigneur, au nom de Jésus, j'arrête maintenant, etc. » Non, vous comptez sur le Seigneur, mais vous attendez le Seigneur, vous priez, vous attendez, vous désirez vraiment que le Seigneur intervienne dans vos vies. Et le Seigneur va nettoyer le temple, comme il l'a fait quand il était sur la terre. L'attitude de ce serviteur, c'était celle-là, il connaissait Dieu, il connaissait le Dieu d'Abraham. Pourquoi il le connaissait? Parce que son maître en avait fait la démonstration. Est-ce que les gens qui nous connaissent savent, sans même qu'on leur ait dit, que si un jour ils sont en difficulté, ils peuvent faire appel au Dieu que nous proclamons? Est-ce qu'en nous voyant, est-ce qu'en connaissant notre vie, ils savent que quand ils sont dans la détresse, ils peuvent crier à Dieu? Ce serviteur connaissait Dieu par l'intermédiaire de son maître. Il savait très bien que Dieu répondait. Il savait très bien que Dieu était tout-puissant. Hérode le savait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand il a fait garder Pierre avec 16 soldats pour le garder et des chaînes, parce qu'il savait que Dieu était tout-puissant. Mais il avait oublié que tout-puissant, ça voulait dire que 16 gardiens, c'était rien, que les chaînes, c'était rien, et que la porte de la prison, c'était rien. Mais voilà quelqu'un qui avait entendu de la puissance de Dieu, qui redoutait la puissance de Dieu. Dieu répond et Dieu agit. Mais c'est ce Dieu-là que nous voulons proclamer et que nous voulons rechercher. C'est ce Dieu-là que je veux connaître dans ma vie. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain. L'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il a dit « Nous n'avons pas prêché l'Évangile seulement par des paroles, mais aussi avec puissance. » La puissance de Dieu se manifestait, la puissance de Dieu doit se manifester parmi nous et dans nos vies premièrement, pour que les situations impossibles se réalisent. Et à peine avait-il fini de faire cette prière, ce serviteur, qu'il a vu une jeune fille qui approchait et il lui a dit « Donne-moi à boire ». C'était une parole prophétique parce que c'est Jésus lui-même qui, dans le Jean chapitre 4, des années plus tard, a dit à une femme, « Donne-moi à boire. » Et j'aimerais vous demander si Jésus vous dit ce matin, « Donne-moi à boire. » Quelle est l'eau que vous allez lui donner? Quelle est l'eau que vous pouvez lui donner? La Samaritaine ne lui a rien donné. Elle a discuté, elle a commencé à discuter avec Jésus. Et c'est quand même cruel, n'est-ce pas? Jésus, il a soif. Et elle commence à parler de la pluie et du beau temps, parler de la religion après. On est comme ça. Hein. Jésus nous dit « Donne-moi à boire ». Et on dit « Comment toi qui es le Dieu de l'univers, toi le créateur de l'eau, c'est toi qui me demandes à boire ?» Et on commence à discuter. Et Jésus attend quelque chose. Il attend que vous puissiez puiser de l'eau. Puiser dans votre vie de cette eau et lui présenter cette eau en disant « Je ne suis pas digne de donner cette eau parce qu'elle est sale. » L'eau qui est dans vos vies est sale. L'eau qui est dans ma vie est sale. Elle a été foulée, elle a été piétinée, elle a été salie par le péché. Et Jésus nous demande « Donne-moi de l'eau. » Parce qu'il veut recevoir de nous ce que nous avons à l'intérieur pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir nous sanctifier et pour pouvoir donner cette eau de la vie éternelle. Il veut d'abord qu'on donne notre eau qui est sale, notre eau qui est impure, notre eau qui nous caractérise, nous. Et au lieu de faire ça, nous argumentons, nous parlons, nous discutons avec Jésus de religion en disant « c'est pas toi qui devrais, comment toi tu me demandes de l'eau, etc. » Le Seigneur va nous donner cette eau vive, mais il va nous poser cette question, donne-moi à boire. Et il a voulu entendre de la Samaritaine, je n'ai pas de mari, j'ai un problème dans ma vie, j'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas te donner d'eau. Je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Et c'est vrai qu'on ne peut rien donner au Seigneur. Quelquefois on dit, prends mon cœur, prends ma vie, je te la donne. Et on a l'impression de donner, d'être très gentil, d'être généreux. Mais c'est la misère qu'on donne. Quand les gens disent, et je le dis souvent, quand les gens disent, voilà, si je me donne au Seigneur, qu'est-ce que je vais perdre? Eh bien, dans ce cas-là, le seul conseil qu'on puisse donner à ces gens, c'est de ne pas se donner au Seigneur. Si vous avez peur de perdre quelque chose, alors que votre vie est une vie de misère, de péché, de souillure, et vous avez peur de perdre ça, alors que Dieu veut vous donner le Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes en train d'argumenter, de parler, au lieu de tomber à genoux et de demander pardon, au lieu de venir à Christ et de dire « Seigneur, moi je peux rien t'apporter sauf ma souillure ». Et c'est ça que Jésus veut, n'est-ce pas? Pour pouvoir le mettre à la croix, le clouer à la croix du calvaire et puis pouvoir nous donner le Saint-Esprit à la place. Il n'y a rien à perdre. C'est extraordinaire de voir l'œuvre de Dieu. Mais Rebecca n'était pas de la sorte, elle n'était pas comme la Samaritaine. Elle a répondu sans le savoir, elle a répondu à la voix du Seigneur, à la volonté du Seigneur. C'est ça l'Église que Dieu veut. Elle incarnait sans le savoir la promesse de l'Église. Elle incarnait la Nouvelle Jérusalem. Je sais que c'est Sarah qui l'incarne dans Galates chapitre 4. Mais Isaac est l'enfant de la promesse, représente Jésus-Christ et celle qui a été unie à. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit la seule femme d'Isaac. Celle qui était unie à Isaac, c'était donc Rebecca. Et en obéissant tout de suite, elle aurait pu dire, voilà, non, moi je te donne à boire parce que tu as l'air d'être fatigué, d'avoir soif, mais les chameaux, c'est un peu trop. Elle a fait plus que ce que lui demandait le serviteur. Il lui a demandé, donne-moi à boire. La question, c'est de savoir si chacun d'entre nous, nous sommes prêts à faire pour le Seigneur ce qu'il a en vue pour nous, ce qu'il veut que nous fassions. Est-ce que ce matin, on répond au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux ce que tu me demandes, je veux le faire. Ce que tu me demandes à faire, je veux le faire pleinement. Je ne veux pas faire juste un peu. N'est-ce pas, dans les évangiles, Jésus dit, si on te demande de faire 1 000, fais-en 2 pour la personne qui te demande. Ne te détourne pas de ton semblable. S'il te demande quelque chose, donne-lui. Et est-ce qu'on a cette attitude que cette femme avait? C'est pour ça qu'elle a pu représenter, qu'elle peut représenter l'Église. Et dans l'Église de Christ, il n'y a que ceux qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. C'est merveilleux, merveilleux d'entendre le témoignage de tout à l'heure de quelqu'un qui décide, moi je veux faire la volonté de Dieu, je veux être prêt à quitter ma culture pour vivre des risques, des choses risquées. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais le faire et on verra ce que Dieu a en réserve. Et c'est Dieu qui va agir, qui va ouvrir les portes, qui va utiliser. C'est le Seigneur qui est fidèle, le même qui a répondu là, le même qui va répondre au XXIe siècle. C'est extraordinaire de voir sa puissance. Alors, quand il a vu l'accomplissement de la prière, quand il a vu comment Dieu agit, il n'avait plus de doute dans son cœur. Il n'avait plus de doute. Et c'est tellement merveilleux quand les gens peuvent témoigner en disant « La manière dont Jésus a intervenu dans ma vie, je n'ai plus aucun doute, je suis sauvé, je sais Je sais, l'aveugle pouvait dire, on le dit souvent, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Pas besoin d'être lettré pour cela, pas besoin d'avoir fait des études. Les théologiens sont souvent des ignorants de la puissance de Dieu. Pas tous, évidemment, ça serait très grave de dire ça. Mais combien de théologiens connaissent beaucoup sur Dieu, mais ne connaissent pas la personne de Dieu, ne connaissent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Mais la puissance de Dieu, c'est ça, que ça donne une évidence. Oui, je sais, je sais. Il savait que son voyage était réussi, que Dieu avait accompli, que c'était elle. Il savait que c'était elle qui était la choisie, l'élue de Dieu pour le fils de son maître. Est-ce que vous savez que Dieu a répondu dans votre vie? Vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous êtes en train de vivre des moments glorieux par la grâce de Dieu, et que Dieu va agir et donc il va bénir le reste de votre vie. Et il a offert quelque chose. Dieu donne. Dieu donne parce qu'il aime. Vous savez que dans le verset qu'on connaît tellement bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le verbe donner va suivre aimer de très près dans le texte, parce que ça va ensemble. On se donne quand on aime. Et ce serviteur, il aimait cette femme, pas pour lui, mais pour le fils de son serviteur, de son maître. Et il a offert des cadeaux de son maître, bien sûr que son maître avait prévu. Mais voyez la foi. Ils sont partis avec des cadeaux parce qu'ils savaient au fond, Abraham, que Dieu allait répondre. Et donc voilà les cadeaux qu'il a fait. Remarquez les cadeaux. Bracelet en or et une boucle pour le nez. Je ne recommande pas les gens de mettre une boucle au nez. Mais je vous fais juste remarquer que c'était le cadeau. Et si vous lisez Ézéchiel, je crois, chapitre 16, eh bien c'est ainsi que Dieu a revêtu Jérusalem. Je crois que c'est Jérusalem ou Samarie. Il lui a mis une boucle au nez. C'est du piercing, ça. Alors ne le faites pas, parce que culturellement, il y a un sens. Mais on doit réfléchir aussi à ce qu'on dit, n'est-ce pas, quelquefois. Quand on dit, voilà, il ne faut pas qu'il y ait ceci, cela, catégoriquement, eh bien, il faut savoir que c'est culturel aussi, certaines choses. Et le cadeau, quand elle a reçu ça, elle a couru annoncer ça dans sa famille. Elle a couru annoncer la nouvelle. J'ai reçu du Seigneur quelque chose, je viens d'accomplir, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai été naturel, et le Seigneur a agi, le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose que je ne saisis pas encore. Elle a couru, et j'ai lu dans la traduction de l'Ancien Testament faite par le rabbin Tzadok Khan, le grand rabbin de France, il y a plusieurs décennies, c'est très beau, elle est allée dans la chambre de sa mère. Elle est allée dans la chambre de sa mère, annoncer la nouvelle, proclamer la nouvelle. Ici, je crois que c'est dans la maison, probablement dans la maison de son père que c'est mis. Mais là, c'était dans la chambre de sa mère. Premier endroit où il faut aller. Physiquement et spirituellement. Il faut aller proclamer dans la chambre de sa mère ce que Dieu a fait pour nous. La chambre de la mère, c'est pas seulement un endroit physique, c'est aussi spirituellement. C'est l'héritage que vous avez reçu, c'est celle qui vous a nourri, celle qui vous a donné la vie. C'est la nature humaine que vous avez reçue. Vous devez aller proclamer, il y a eu un changement, il y a eu une nouvelle naissance. Maintenant, je vais être détaché de cette nature. Je dois le proclamer, je dois le déclarer. Je serai détaché parce que je suis promise à quelqu'un d'autre. Sans me rendre compte, je viens d'être choisi par le Dieu Tout-Puissant pour faire partie, pour appartenir à quelqu'un d'autre. Et je veux le proclamer là où il y a eu les liens, le cordon ombilical. Là où il y a eu cet attachement, je veux proclamer que maintenant je suis libre. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, n'ayez pas peur de lire le Cantique des Cantiques, c'est merveilleux comme histoire. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est vers la fin du Cantique des Cantiques, je n'ai pas la référence exacte, je peux la trouver, mais je ne veux pas interrompre ce que je voulais dire là-dessus. C'est que la femme dit « Je t'emmènerai là où ma mère m'a conçu. » Est-ce que dans votre vie, vous avez amené le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez proclamé la bonne nouvelle du fait que vous avez été choisi pour appartenir au Seigneur? Est-ce que vous l'avez proclamé dans tous les domaines de votre vie? Ou est-ce qu'il y a encore des liens au passé, du passé? Est-ce qu'il y a encore des attachements? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous attachent à des pratiques du passé? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous attachent à votre culture? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous attachent à votre héritage familial, votre éducation? Quand on vous a dit que c'est comme ça et pas autrement. Le Seigneur agit de cette manière-là, et si tu n'es pas dans cette manière-là, alors tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez été détaché de votre éducation évangélique pour donner votre vie au Seigneur, pour proclamer dans tous ces domaines, maintenant ce n'est plus mon passé, ce n'est plus mon histoire, ce n'est pas mon éducation qui va dicter ma vie. C'est un certain Isaac que je ne connais pas. C'est un certain Jésus que je ne connais pas encore. Et si vous venez à Christ, si vous acceptez de suivre Jésus-Christ, il faudra proclamer ça dans tous les domaines de votre vie. La maison de votre mère, la maison de votre père. Je proclame, c'est pas agressif, c'est pas dire je proclame que vous n'avez plus, c'est pas eux. C'est facile quelquefois pour quelqu'un qui est un petit peu révolté contre ses parents de dire c'est plus vous qui commandez ma vie. C'est dire aux autorités spirituelles de votre passé qui dirigent encore vos façons de réagir, vos façons de penser, de vos façons de croire, de dire non, maintenant, c'est Jésus qui va dicter ma vie. C'est plus ce qui m'a dicté jusqu'à présent, c'est Jésus. C'est Jésus et je le proclame, je le déclare. Le serviteur est rentré dans la maison du Père, dans la maison de la Mère. Il est rentré, mais il n'est pas resté. Et ça, c'est aussi frappant. Jacob, il est rentré des années après, mais il est resté. Bien sûr, il devait rester parce qu'il fuyait Ésaü. Mais il est resté. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il a arrangé tout un tas de choses. Il a arrangé que ce soit Rachel et pas Léa. Alors Dieu a béni Léa, plus que Rachel. On ne pense pas ça, mais Léa a donné naissance à Lévi, le père des sacrificateurs. Elle a donné naissance à Judas, la tribu de laquelle est issu Jésus. Rachel a donné naissance à deux garçons, et c'est parce que le Seigneur a eu compassion d'elle à la fin. Mais elle n'a pas eu trop de chance. Joseph, c'était vraiment un représentant de Christ. Mais en fait, on ne parle plus de Joseph, après on parle d'Éphraïm et Manassé, et ce n'était pas des tribus faciles. Et ensuite, elle a donné naissance à Benjamin, et les Benjamites comme tribu étaient une tribu problématique. Ils ont fait des histoires. Mais Dieu n'a pas oublié, bien sûr, Saul de Tarse était de la tribu de Benjamin. Le Seigneur est bon, le Seigneur met un équilibre en tout. Mais il a essayé d'arranger beaucoup de choses, Jacob. Il a essayé d'arranger de se trouver seul avec Rachel pour pouvoir lui dire, voilà, au fond, c'est toi que j'ai choisi. Il a essayé d'arranger énormément de choses et Dieu a dû lui montrer dans sa vie. Que même s'il pouvait se battre avec Dieu dans le Genèse 32, eh bien, et même s'il était vainqueur dans beaucoup de ses arguments et dans ses combats avec Dieu, eh bien, il avait besoin de la bénédiction de Dieu. « Je ne partirai pas, à moins que tu m'aies béni », a-t-il dit. Moïse, plus tard, s'est aussi trouvé dans un puits. Et c'est là aussi qu'il a rencontré son épouse, Séphora. Lui aussi, il a servi, n'est-ce pas ? Il a servi, il a donné l'eau pour le troupeau de Séphora et de ses sœurs. Il faut juste agir comme Dieu veut qu'on agisse. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle unique. Le Seigneur va nous indiquer, mais est-ce que notre désir, c'est de le connaître ? Est-ce que notre désir, c'est d'appartenir à Isaac, celui que Dieu a choisi ? Est-ce qu'on est prêt à faire comme Rebecca a fait et comme la femme dans le Cantique des Cantiques a fait, de l'emmener Jésus dans les domaines de notre vie les plus secrets ? Ou est-ce qu'il y a un domaine dans notre vie où on dit, Seigneur, tu ne vas pas là. Seigneur, ça me fait trop mal si tu y touches. Ce matin même, s'il y a un domaine qui est trop sensible de votre vie, je vous demande de l'apporter à Jésus, de venir à Jésus et de dire, Seigneur, ce domaine-là, tu le touches. Je veux voir que tu agis, je vais te prier ce matin et te demander que tu agisses par le Saint-Esprit pour que ce domaine t'appartienne. Parce que Dieu veut la totalité. L'Église, Rebecca s'est donnée entièrement, n'est-ce pas ? Et elle a dû le déclarer. C'est son père, son frère sont venus lui dire, « Alors, est-ce que tu veux partir avec cet homme ou est-ce que tu veux encore rester ?» Elle a dit, « Je partirai. » Est-ce que ce matin, les uns les autres, est-ce que moi-même, on est prêt à dire au Seigneur, « Seigneur, je me donne totalement à toi. » Il n'y a pas de domaine que je veux retenir pour moi. Il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas toucher. Ça t'appartient. Et la femme Rebecca a suivi le serviteur. Et le serviteur l'a amené près d'Isaac. Et Isaac, il est dit tout simplement que Isaac l'a amené dans la chambre de sa mère. Parce que Sarah était morte. Il l'a amené dans la chambre de sa mère. Et c'est extraordinaire parce que c'est ce que Jésus va faire. Il va vous amener dans la chambre de sa mère. Ah, bien sûr, vous avez peur. Vous avez peur que je dise, il va vous amener chez Marie. Sa mère n'était pas Marie. Marie était la mère de Jésus en tant qu'homme. Marie est morte. Elle était une femme qui a vécu jusqu'au bout pour Jésus. Elle était une chrétienne. Une des premières chrétiennes, mais c'est tout. La mère de Jésus, c'est l'Église. C'est l'épouse, mais c'est l'Église. Parce qu'il a dit, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Donc c'est Jésus qui donne la réponse. Il a dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Quand Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté ou selon ta parole, elle a dit que je devienne, si je traduis, que je devienne ta mère, que je devienne la mère de Christ. Parce que je fasse la volonté de Dieu, ça veut dire que vous êtes la mère de Christ, le frère de Christ, la sœur de Christ. Et c'est là où Isaac a amené Rebecca. Il a amené à faire partie de sa mère, au fond, qui est l'Église. Dans Galates chapitre 4, il est dit que Sarah représente la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui est décrite dans l'Apocalypse comme étant l'épouse de Christ. C'est l'Église qui est constituée de gens qui ont donné leur vie totalement au Seigneur, qui sont prêts à être unis à Jésus sans condition. Malheureusement, s'il y a quelque chose qui nous retient, nous ne pouvons pas être l'épouse de Christ. Nous ne pouvons pas être partie de cette Église. de cette église avec un grand E, je ne parle pas de cette église locale. Ce matin, il est nécessaire que nos cœurs fléchissent devant Dieu. Il est nécessaire que puissions dire au Seigneur, prends tous les domaines de ma vie. Rentre dans tous les domaines, ils t'appartiennent entièrement. Il n'y a rien à moi qui ne soit à toi. Jésus nous a tout donné. C'est à nous de tout donner aussi au Seigneur en retour. Que le Seigneur nous aide et qu'il agisse. Et c'est là où on a commencé à découvrir, Rebecca a pu voir que ces moments glorieux qu'elle a connus avec le serviteur n'étaient que le début d'une vie glorieuse et d'une promesse glorieuse avec Isaac. Et elle ne le savait pas, mais qu'au XXIe siècle, on parlerait d'elle, qu'elle serait le sujet de l'attention, de l'intérêt, de la méditation en représentant l'Église. Que Dieu nous parle chacun ce matin et qu'il nous transforme. Amen.